carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bienvenue dans cette deuxième émission consacrée au bicentenaire de la naissance de Frédéric Chopin. Pour rendre hommage à ce grand compositeur de la période romantique, Jean-Pierre Grivois, mélomane et auteur du livre « Moi, Jean-Sébastien Bach », nous accompagne au cours de cette émission pour retracer la vie de Frédéric Chopin à travers ses écrits. Bonjour Jean-Pierre Grivois.
Bonjour.
Alors, nous avions laissé Frédéric Chopin seul à Stuttgart en proie à un immense désespoir. Que lui arrive-t-il ?
Bien écoutez, il va quitter Stuttgart et vous allez voir que lors de son arrivée à Paris, vous allez voir un autre homme. Il est passé par Strasbourg et il arrive à Paris le 24 septembre 1831. Il faut dire qu'il n'est pas le seul puisqu'il y a eu cette fameuse répression d'insurrection de Varsovie, et il va trouver à Paris toute une colonie de Polonais dont il va parler dans ses lettres d'ailleurs.
Alors justement, est-ce qu'il n'est pas perdu à Paris ?
Mais écoutez, Chopin est un homme qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, observe tout, regarde tout autour de lui. Et je vous propose de vous lire une lettre qu'il a écrite à son ami Kumelski le 18 novembre 1831, donc à peine 2 mois après son arrivée à Paris. Voilà ce qu'il dit. Tous les Français sautillent et jacassent, même quand ils n'ont plus un sou. Je suis arrivé ici sans trop de peine, mais à grands frais, et je suis content de ce que j'ai trouvé dans cette ville. Les premiers musiciens et le premier opéra du monde. Avouez que c'est quand même gentil pour les Français. Je connais déjà Rossini, Cherubini, Paër, et sans doute resterai-je plus longtemps à Paris que je ne le pensais, non que j'y sois tellement bien, mais parce qu'il est possible que peu à peu, je parvienne à l'être. Ça, c'est une des finesses psychologiques de Chopin. Sans arrêt, il y a des petites touches psychologiques comme ça, au détour d'une phrase qui sont tout à fait extraordinaires. Hier, j'étais chez Madame Potocka, la jolie femme de Mstislav. Cette Madame Potocka, qui était une comtesse, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a un peu une légende qui s'est créée entre lui et Chopin. On en reparlera tout à l'heure. Je me lance peu à peu dans le monde. Hélas, je n'ai qu'un ducat en poche. Mais je ne t'ai encore rien dit de l'impression produite sur moi par cette grande ville après Stuttgart et Strasbourg. On trouve ici à la fois le plus grand luxe et la plus grande saleté, la plus grande vertu et le plus grand vice. À tous les pas, les affiches relatives aux maladies vénériennes, mais oui, du bruit, du vacarme, du fracas, de la boue, plus qu'il n'est possible de l'imaginer. On disparaît dans ce paradis et c'est bien commode. Personne ne s'y informe du genre de vie qu'on y mène. On peut sortir en plein hiver vêtu de guenilles et fréquenter la plus haute société. Je doute un peu que Chopin soit sorti en guenilles, mais enfin. Un jour, pour 32 sous, tu fais un repas des plus copieux dans un restaurant éclairé au gaz et couvert de glace et de dorure. Le lendemain, il peut t'arriver de déjeuner dans un autre où l'on te servira la portion d'un oiseau tout en te faisant payer 3 fois plus cher. J'ai au début appris cela à mes dépens. Et que de demoiselles miséricordieuses, elles pourchassent les passants. Je regrette que le souvenir de Thérèse m'empêche de goûter du fruit défendu. Alors là, cette fameuse Thérèse, tous les exégètes de Chopin en ont parlé. En fait, il lui était peut-être arrivé une petite mésaventure avec une fille de mauvaise vie quelque part. Tout le monde a recherché qui était Thérèse. En fait, personne n'a jamais trouvé.
Personne n'a jamais su ?
Et tout n'est que conjecture dans ce domaine. Vous avez autant de théories que d'auteurs sur cette Thérèse. Donc cela m'empêche de goûter aux fruits défendus. Et je connais déjà quelques cantatrices. Et plus encore que les chanteuses tyroliennes, celles d'ici sont désireuses du duo. Alors là aussi, exégèse sur les aventures de Chopin, dont on ne sait rien en réalité. Parfois, dans mon 5e étage, J'habite boulevard Poissonnière, numéro 27. La maison existe toujours, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Tu ne pourrais croire combien est joli mon logement. J'ai une petite chambre au délicieux mobilier d'acajou avec un balcon donnant sur les boulevards où je découvre Paris de Montmartre au Panthéon et tout au long ce beau monde. Bien des gens m'envient cette vue, mais personne mon escalier. Il ne faut pas oublier qu'il vient de dire qu'il habite au 5e étage. Souvent, donc, lorsque le soir je regarde mes lettres, quand j'ajoute quelques mots dans mon album, il me semble que tous ces souvenirs ne sont qu'un rêve. Ce qui s'est passé en réalité me paraît incroyable. Quand pourrons-nous reparler de tout cela en tête à tête? Je pense rester ici pendant 3 ans. En réalité, il y restera 17 ans, comme vous le savez, à Paris.
Mais n'est-il pas franco-polonais?
Ah ben si, bien sûr, il a toujours cette nostalgie de la Pologne et il l'écrit en particulier à son ami Titus. Il écrit une très longue lettre le soir de Noël 1831, dont voilà quelques extraits. Vous allez voir que, comme toujours, Chopin adore passer du coq à l'âne dans ses lettres. Ses lettres, il les écrit d'ailleurs parfois sur plusieurs jours. Mais il a une sorte de don pour exprimer à l'instant T exactement ce qu'il éprouve et même ses changements d'humeur. Vous allez le voir dans cette lettre. Alors, il appelle Titus « ma vie bien-aimée ».
Pourquoi donc?
Ah, ça, j'en sais rien. Il l'appelle de tous les noms. Il l'appelle « mon âme », il l'appelle « ma vie bien-aimée », il l'appelle d'un tas de noms différents. C'est son affectivité qui ressurgit, qui gênait un peu d'ailleurs Titus, d'après ce qu'on dit. Donc, voici cette lettre du soir de Noël. « Voici la deuxième année que mes vœux de fête doivent franchir 10 frontières pour arriver jusqu'à toi. » Te voir en chair et en os pendant la durée d'un seul regard te conserverait mieux à mon cœur que 10 lettres. Aussi j'abandonne cette question. Je n'ai pas acheté un de ces petits recueils que filles et garçons vendent ici dans les rues pour 2 sous. Curieux peuple. Quand vient le soir, partout, on entend crier le titre de nouvelles petites feuilles volantes pour 1 sou. On peut acheter 3 ou 4 pages de sottises imprimées, telles que l'art de se faire des amants et de les conserver ensuite, les amours des prêtres, l'archevêque de Paris et Madame la Duchesse de Berry, et 1000 autres obscénités de ce genre, fort spirituellement écrites parfois. Entre nous, on se demande comment il peut juger qu'elles sont écrites spirituellement et ne pas les avoir achetées.
Oui, on a l'impression qu'il a un jugement sur tout.
Oui, absolument, mais c'est extraordinaire. Vous allez voir, de plus en plus, il est d'une curiosité intellectuelle, alors qu'il y a cette légende autour de lui qui est du romantique un peu renfermé sur lui-même. Mais c'est exactement le contraire. Il est tourné vers l'extérieur d'une manière sensationnelle. En vérité, ils sont intéressants à observer les moyens employés ici pour gagner 1 sou. Il faut te dire que la misère est grande en ce moment. Peu d'argent en circulation. On rencontre quantité de gens en guenilles dont les physionomies sont hautement significatives. Bien souvent, on entend des menaces contre ce sot de Louis-Philippe, ah, il adorait Louis-Philippe, qui ne tient plus que par un cheveu à son ministère. Le dit Louis-Philippe va quand même tenir jusqu'en 1848, c'est-à-dire près de 18 ans. La classe populaire est profondément irritée. À chaque moment, elle est prête à tout pour tenter de sortir de cette situation pénible. Mais malheureusement, le gouvernement la surveille très étroitement et la gendarmerie montée disperse le moindre rassemblement. Alors ici, il nous fait une petite analyse de différents groupuscules politiques qui est tout à fait intéressante. 1 millier de jeunes gens peu gouvernementaux, groupés derrière un drapeau tricolore, ont traversé la ville. Il y avait l'école de médecine. Les jeunes francs, ceux-ci portent une courte barbe et nouent leur foulard suivant certaines prescriptions. En France, en effet, chaque parti politique, je parle des plus avancés, s'habille d'une façon particulière. Les carlistes ont des gilets verts, les républicains et les bonapartistes, ce sont eux qui forment la jeune France, sont vêtus de bleu, ainsi que les saint-simoniens, appelés aussi néo-chrétiens, fondateurs d'une religion ralliant énormément de prosélytes et qui, eux aussi, sont pour l'égalité. Vous voyez qu'en à peine 1 mois ou 2, il a analysé tous ces petits partis, il est très au courant de tout ce qui se passe.
Donc ça veut dire qu'il s'intéressait à la politique ?
Bah, apparemment, vous allez voir par la suite qu'il porte plusieurs jugements politiques, pas dans cette lettre-là, mais dans d'autres. On espérait que cette émeute, comme on dit ici, se poursuivrait le lendemain matin, mais jusqu'à présent, les sots se tiennent tranquilles. Et alors tout d'un coup, il change de sujet. Le diable sait ce qu'il arrivera encore en ce monde, au théâtre Franconi, où l'on ne joue plus que des pièces à grand spectacle avec figuration de chevaux. On donne actuellement un drame racontant l'histoire de nos derniers temps. La foule s'y presse avec fureur pour admirer tous ces costumes. voyez que ça n'a pas tellement changé par rapport à l'époque.
Alors c'est très bien, il s'occupe de politique, mais s'occupe-t-il de son devenir de musicien ?
Oui, absolument. Et vous allez voir qu'il en parle toujours au même Titus, en mélangeant les épanchements personnels et des nouvelles de...
Donc dans une autre lettre.
C'est la fin de cette lettre, c'est une lettre, mais vous savez, c'est un genre de lettre qui marque, par exemple, du rédigé du 18 au 25 décembre. C'est des lettres qui sont rédigées quelquefois sur plusieurs jours. C'est à la limite entre la lettre et le journal intime, sauf qu'il l'envoie à quelqu'un. Et alors là, il raconte des choses assez drôles sur ses relations avec un, vous allez voir qui, un être assez rustre. Et il en profite pour dire ce qu'il pense de son comportement vis-à-vis de la musique nationale polonaise. Alors voilà le passage. « Comme je voudrais que tu sois ici, dit-il toujours à Titus, tu ne pourrais croire combien je suis triste de n'avoir personne auprès de qui m'épancher. Tu connais la facilité avec laquelle je me lis, tu sais combien j'aime parler à quiconque de n'importe quoi, eh bien... J'en ai par-dessus les oreilles de semblables connaissances alors que je ne puis me confier un soupir à personne. Mes sentiments sont toujours en syncope avec ceux des autres. » Je trouve ça très joli cette expression. « Mes sentiments sont toujours en syncope avec ceux des autres. Je m'en tourmente et tu ne pourrais croire à quel point j'aspire à une pause pendant laquelle, de toute une journée, personne ne me parlerait. » Ça, j'avoue que je comprends assez bien. « Il m'est insupportable, pendant que j'écris, d'entendre teinter... La... » Alors là, il décrit au fur et à mesure ce qui va se passer sous ses yeux. « Il m'est insupportable, pendant que je t'écris, d'entendre teinter la sonnette et qu'un être grand, solide et pourvu de moustaches énormes s'introduise auprès de moi, prenne place au piano et se mette à improviser Dieu sait quoi en dehors de tout sens commun. Il tape sur le clavier, il le broie, saute sur place, croise les mains et pendant 5 minutes frappe la même note d'un doigt formidable créé de toute évidence pour le fouet et les guides de quelques régisseurs du fond de l'Ukraine. » Mais ce qui surtout me fait tourner le sang, c'est son album de chansons grossières, dénuées de sens et nanties des pires accompagnements, sans le moindre connaissance ni de l'harmonie ni de la prosodie, et s'achevant sur des contredanses qu'il appelle « recueil de chants polonais ». Et alors là, cette phrase est très importante. « Tu sais combien j'ai toujours cherché à exprimer le sentiment de notre musique nationale et comme j'y suis en partie arrivé. » Je trouve que cette phrase est passionnante parce que ça montre qu'il se sent une sorte de mission, vous voyez, vis-à-vis de la musique polonaise. Et il ne doute pas de son propre génie, d'être arrivé à exprimer ce sentiment de la musique polonaise. Alors, poursuit-il, rends-toi compte de l'agrément que j'éprouve lorsqu'ayant glané par-ci par-là chez moi quelques phrases dont toute la beauté réside souvent dans l'accompagnement. Il se met à jouer à la manière d'un organiste de village ou d'un musicien de gargote, de taverne ou de mastroquet. Il n'y a rien à lui faire comprendre, car il ne peut concevoir une phrase musicale autrement que de la façon dont elle vient sortir de sa patte. Et quel bavard ! Il parle de tout, et surtout de Varsovie, où il n'est jamais allé. Alors voilà qu'il continue, il lui arrive encore une autre chose pendant qu'il écrit cette lettre. « À l'instant même, alors que j'allais entamer la description d'un bal où j'ai été ravi par une divinité aux cheveux noirs ornés d'une rose, voici que je reçois ta lettre. » Tout le moderne sort de mon esprit. Je me rapproche encore plus de toi, je te prends la main et je pleure. Vous voyez, on est passé de choses plutôt comiques et puis tout d'un coup, c'est une nostalgie qui le recouvre parce qu'il reçoit cette lettre de son ami.
On ressent toujours ce côté très affectif.
Ah oui, exactement, ça passe d'un extrême à l'autre. J'ai reçu ta lettre, donc nous nous reverrons d'autant plus tard si jamais nous nous revoyons, car à vrai dire, ma santé est bien misérable. Extérieurement, je suis gai, surtout parmi les miens. J'appelle les miens les Polonais. Cette phrase est importante, mais il y a toute une exégèse autour de Chopin disant qu'il était à moitié français, à moitié polonais. Une phrase comme ça, ça montre, quand il dit « surtout parmi les miens, j'appelle miens les Polonais », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais intérieurement, bien des choses me font souffrir. Certains pressentiments, des rêves ou bien l'insomnie, la nostalgie, l'indifférence, le désir de vivre et un moment plus tard, celui de mourir. Une sérénité délicieuse, une sorte d'engourdissement. Je me tiens loin de tout et parfois, des souvenirs précis me tourmentent. L'amertume, l'aigreur, un affreux mélange de sentiments me bouleverse et m'agite. Je suis plus bête que jamais. Ma vie, vous me demandiez tout à l'heure, ben là, il appelle Titus ma vie. Ma vie, pardonne-moi, c'est assez. Et maintenant, je vais m'habiller et puis je prendrai une voiture pour aller dîner au Rocher de Cancale, le plus grand restaurant de Paris. Ta lettre m'a apporté aujourd'hui beaucoup de nouveautés. Tu m'as fait le don de 4 pages et de 37 lignes. Depuis ma venue en ce monde, je n'avais rien reçu de pareil. » Il a certainement reçu beaucoup de lettres de ce genre-là, mais c'est son aspect un petit peu excessif, vous voyez, d'exprimer son amour pour son copain Titus. « À nul moment tu ne m'as ainsi comblé et j'avais besoin de quelque chose de ce genre. » Alors là, très important au point de vue de sa manière dont il conçoit sa vie de créateur musical. « Ce que tu m'écris sur la voie que je dois suivre est une vérité répondant à mes convictions. Mais mon cher, ne trouve pas mal que j'aille de l'avant dans mon propre équipage, ayant seulement loué un cocher pour les chevaux. » C'est-à-dire que, sous-entendu, il est seul devant son piano, alors que tous ses copains et amis polonais lui recommandaient de créer des opéras polonais, des opéras à la gloire de la Pologne, etc. Pardonne-moi, mon ami, le disparate de ma lettre. Vous voyez qu'il est conscient de parler de manière un peu disparate. Je la termine, sinon je ne pourrai la mettre à temps à la poste. Écris de grâce et pitié, je t'embrasse à toi jusqu'à la mort.
Alors, comment Chopin s'est fait-il connaître à Paris ? Dites-moi tout.
Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous le dire brièvement, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Il y a une chose quand même extraordinaire, qu'à peine 3 mois après son arrivée, il fréquente déjà tous les musiciens les plus en vogue, et en particulier...
Lesquels ?
Un certain pianiste qui s'appelle Kalkbrenner, qui était un pianiste très célèbre à l'époque, et il va nous décrire dans une lettre tout à fait extraordinaire la manière dont il voit ce Kalkbrenner et dont il lui a été présenté. « Je suis arrivé à Paris muni des recommandations bien modestes. Une lettre de Malfatti pour Père. » Père, c'était un compositeur, un chef d'orchestre de l'époque. « Quelques lettres de Vienne pour les éditeurs. C'est tout. Et c'est à Stuttgart où me parvint la nouvelle de la prise de Varsovie. C'est là seulement que j'ai pris vraiment la résolution de me rendre dans cet autre monde. » Vous voyez, c'est extraordinaire parce qu'il quitte l'Allemagne et la Pologne. Il arrive en France et il a l'impression que c'est l'Amérique, enfin qu'il découvre vraiment qu'il est entré dans un autre monde un petit peu sans retour possible. Je trouve que cette formule est très belle et j'ai pris la résolution de me rendre dans cet autre monde. Grâce à Père, qui est chef d'orchestre à la cour, Père, il avait été aussi chef d'orchestre auprès de Napoléon Ier. J'ai fait la connaissance de Rossini, de Cherubini, de Baillot, etc. C'est aussi par lui que j'ai été présenté à Kalkbrenner. Tu ne saurais croire combien j'étais curieux de connaître Liszt, Hiller, etc. Ce sont tous des zéros en comparaison de Kalkbrenner. Alors là, Chopin, une petite excuse vis-à-vis de son jugement de Liszt, c'est que quand même, Liszt, tout comme lui, est très très jeune à l'époque. Donc, ils sont en devenir.
Ils ont un nom différent, s'il me semble.
Exactement. Je voudrais jouer comme Kalkbrenner. Si Paganini est la perfection même, Kalkbrenner est son égal, mais d'une toute autre manière. Qu'est-il arrivé ? Présenté à Kalkbrenner, je fus prié par lui de jouer. Ne l'ayant pas entendu au préalable, je chassais tout orgueil de mon cœur et bon gré mal gré, je m'assis. Je jouais mon mi mineur pour qui les Rhénans et toute la Bavière n'arrivaient pas à trouver assez d'éloges. Il est d'une humilité extraordinaire, il a un succès fou, il est connu dans toute l'Allemagne déjà à 21 ans et voilà ce qu'il trouve à dire sur son succès. Après m'avoir bien étudié, Kalkbrenner m'a conseillé de prendre des leçons avec lui pendant 3 ans, affirmant qu'il ferait de moi quelqu'un de très, très... Point de suspension. Je sais combien il me manque, lui ai-je répondu, ajoutant que je ne voulais pas l'imiter et que 3 ans, c'était trop. En attendant, il m'a démontré que je joue d'une façon délicieuse lorsque je suis inspiré et formale lorsque je ne le suis pas, chose qui ne lui arrive jamais. Il m'a observé de plus près et d'après lui, je n'ai pas d'école. Je suis sur une voie charmante, mais puis m'égarer. Il trouve du caractère à mes compositions et il affirme qu'il serait bien dommage que je ne me montrasse pas à la hauteur de mes promesses. Et alors lui, il fait un aparté, Chopin. Beaucoup estiment que je suis capable de jouer aussi bien que Kalkbrenner en pensant que celui-ci est mu par son orgueil et qu'il veut pouvoir dire que je suis son élève. Et la dualité de la manière dont il analyse Kalkbrenner. Et alors tout de suite après, il dit « Je jouis déjà d'un grand renom. Je donnerai un concert le 25 décembre. Baillot, le célèbre rival de Paganini, et le fameux hautbois Brott joueront « Moi, je donnerai mon fa mineur ». Et le fa mineur, c'est le fameux concerto dont je crois vous allez nous faire entendre un extrait maintenant.
Oui, nous allons d'ailleurs l'écouter. C'est Le concerto numéro 2, opus 21, numéro 3, en fin mineur. On écoute tout de suite.
Donc, il fait allusion à ce concerto et après, il nous dit « À propos de mes variations, figure-toi que j'ai reçu il y a quelques jours de Cassel un compte-rendu de 10 pages dû à un Allemand enthousiasmé. » Alors, cette page est célèbre d'avoir été écrite par Chopin, mais c'est extraordinaire à entendre parce que c'est malheureusement descendre en flammes toutes les analyses approfondies des exégètes, non seulement de Chopin, mais des exégètes en général. Et ça n'est pas pour me déplaire, puisque avec moi, JSB, j'ai essayé aussi de faire la même chose pour Bach. Alors cet Allemand de Cassel, certains disent que c'est Schumann. Et alors, il a donc écrit un article, et voilà comment Chopin décrit cet article. Après de longs préliminaires, celui-ci les analyse mesure par mesure, disant que ce ne sont point des variations comme les autres, mais une sorte de tableau fantastique. Parlant de la deuxième variation, il dit qu'on y voit courir Don Juan et Leporello. Dans la troisième, Don Juan serre Zerline dans ses bras, tandis qu'à la main gauche, Masetto est pris de colère. Enfin, il déclare qu'à la cinquième mesure de l'adagio, Don Juan embrasse Zerline en ré bémol majeur. « Où ce ré bémol majeur se trouve-t-il sur Zerline ?» me demandait hier le comte Plater. « Vraiment, elle est bien amusante, l'imagination de cet Allemand. » Donc vous voyez, il récuse complètement l'analyse de ce critique musical de l'époque. Voilà, donc je tenais à vous faire entendre cette lettre parce qu'elle est tout à fait passionnante sur la façon dont il critique les appréciations sur ses propres œuvres. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment il était monté dans la grande société parisienne.
Oui.
Donc, on est maintenant quelques mois plus tard, c'est-à-dire même presque 2 ans plus tard, et voilà ce qu'il écrit à la mi-janvier 1833 à un de ses amis qui s'appelle Dominique et dont je n'aurai pas la prétention de vous dire le nom en polonais parce que ça me serait impossible. « Cher Domus, dit-il, je me trouve introduit dans le grand monde au milieu d'ambassadeurs, de princes, de ministres, et je ne sais par quel miracle, car je n'ai rien fait pour m'y pousser. Mais c'est, dit-on, pour moi, chose indispensable que d'y paraître, car c'est de là, affirme-t-on, que vient le bon goût. Tu es en possession tout aussitôt d'un grand talent si tu as été entendu à l'ambassade d'Angleterre ou à celle d'Autriche. Tu joues mieux si la princesse de Vaudemont, la dernière des Montmorency, t'a protégé. Je ne puis en vérité dire « me protège » car cette vieille dame est morte depuis 8 jours. Vous voyez, il y a quelque chose d'agressif.
On a l'impression qu'il est très modeste.
Ah oui, toujours très modeste. Mais enfin, vous allez voir, de moins en moins quand même. Donc, il décrit cette pauvre princesse de Vaudemont. La cour fréquentait chez elle, elle faisait beaucoup de bien pendant la première révolution. Il faut voir qu'on est en 1833 et donc que la première révolution pour Chopin, c'est la révolution de 1789. Pendant la première révolution, elle a donné refuge à bien des aristocrates et après les journées de juillet, c'est elle qui, la première de toutes les grandes dames, parut chez Louis-Philippe. Elle possédait une multitude de petits chiens noirs et blancs, des canaris, des perroquets et aussi le plus drôle des singes de ce grand monde. Celui-ci, pendant les réceptions, se permettait de mordre les comtesses. Je jouis de l'amitié et de l'estime des artistes. Vous voyez, quand vous dites qu'il était modeste, vous allez voir que pas tellement. Hein. Je jouis de l'amitié et de l'estime des artistes. Je ne l'écrirai pas si un an seulement après avoir fait ma connaissance, des maîtres d'une grande réputation ne m'avaient dédié de leurs œuvres sans même que je leur en ai dédié au préalable des miennes. Certaines de mes phrases ont servi de thème à des variations de Kalkbrenner et Kalkbrenner en a usé de la sorte avec une de mes mazurkas. Les élèves du conservatoire, en un mot des virtuoses accomplis, me demandent des leçons. Bref, si j'étais encore plus bête que je ne suis, et là, il retombe dans l'humilité à laquelle vous faisiez allusion, si je n'étais encore plus bête que je le suis, je pourrais me croire au sommet de ma carrière. Mais je sais combien je suis loin de la perfection. Je m'en rends d'autant mieux compte que je vis dans la fréquentation constante des plus grands artistes et que je connais leurs faiblesses. Écoutez bien la phrase qui suit, mais j'ai honte d'avoir écrit tant de balivernes. Je me suis vanté comme un enfant ou bien à la façon de celui qui, n'ayant plus la conscience nette, entreprend de se détendre avant même d'être attaqué. Je supprimerais ces pages si j'avais le temps d'écrire une seconde page. D'ailleurs, tu n'as peut-être pas oublié où est mon véritable caractère. Là, il revient à lui-même. Celui que tu te rappelles est semblable aujourd'hui à ce qu'était celui d'hier, avec cette différence toutefois qu'il a sur le visage un favori, l'autre refusant de croître. Voilà une plaisanterie. Je dois donner aujourd'hui 5 leçons. Alors là, sur les leçons, effectivement, Chopin vivait beaucoup des leçons qu'il donnait et il les donnait pour 20 francs or.
Ce qui correspond. Hein.
Et 20 francs or, et après ça, Georges Sand lui recommandera 25 francs or. 20 francs or, ça correspond à environ 50 euros. Donc vous voyez, pour passer une heure avec Chopin, 50 euros, c'est extraordinaire quand on y pense maintenant avec la célébrité extraordinaire de Chopin. Tu crois sans doute que je fais fortune, détrompe-toi. Le cabriolet et les gants blancs coûtent plus cher que ce que je gagne, mais sans eux, je ne serais pas de bon ton. J'aime les carlistes, je déteste les philippards, je suis moi-même révolutionnaire, par conséquent, l'argent ne m'est rien. Seul compte pour moi l'amitié que j'implore et que je te prie de me conserver. Alors, il manque d'argent pour acheter ses gants et il est révolutionnaire.
Et il y a toujours cette envie d'être aimé par les autres.
Ah, toujours, toujours, toujours. Et de plus en plus, vous allez voir, ça transparaît absolument dans toutes ses lettres. Alors, à cette époque-là, il paraît être en très bonne santé. Et il y a un de ses amis, pour une fois, je vais vous citer la lettre d'un autre.
Oui, d'ailleurs, au niveau de sa santé, comment ça se passe qui,
Vous voyez le jugement de son ami Antoine Orlovski qui écrit à sa famille la chose suivante. Chopin est bien portant et vigoureux. Il tourne la tête à toutes les femmes et rend jaloux tous les maris. Il est à la mode. Sans doute porterons-nous bientôt des gants à la Chopin, mais le regret du pays le consume. Je trouve que ces deux petites phrases résument admirablement l'apparence et l'impression qu'il devait donner à l'époque.
Ces gants bien plus chers que ce qu'il gagne.
Exactement, exactement. Et alors, il est très préoccupé de son élégance et quand il est au loin, il écrit à un de ses amis qui s'appelle Julien Fontana, qui restera un de ses grands amis et qui, après sa mort d'ailleurs, contribuera grandement à entretenir sa mémoire. Et voilà ce qu'il lui demande de faire pour lui. « J'ai oublié de te demander de me commander un chapeau chez mon Dupont dans ta rue. Il a mes mesures et sait quelle sorte de chapeau léger il me faut. » Qu'il lui donne la forme qui se porte cette année, mais sans exagération. En dehors de cela, entre en passant sur le boulevard chez D'Autremont, mon tailleur, et fais-lui faire de suite pour moi des pantalons gris. Choisis toi-même le gris sombre, des pantalons d'hiver, quelque chose de bien, sans aucune espèce de rayure, uni et qui se tire. Tu sais ce qu'il me faut. De même, un gilet de velours noir, mais avec un petit dessin pas criard, en un mot, quelque chose de très simple et élégant à la fois. S'il n'a pas de velours convenable, alors du drap beau et simple, je m'en remets à toi, plutôt pas trop couvert, le gilet, au contraire. Vous voyez comme il va dans le détail de son habillement. Et je crois que c'est assez révélateur de son caractère, parce que vous qui êtes pianiste, vous me direz que le détail et la précision dans lesquels il note tous ses traits dans ses œuvres montrent, et on le verra après, qu'il était d'une volonté de précision tout à fait extraordinaire.
Et même au niveau de l'habit.
Absolument. Et alors quand même, il va se décider à...
Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Eh bien, il va se décider à donner un concert. Alors, très curieusement, malgré tous ses succès, il hésite à donner des concerts. Il n'aime pas beaucoup, finalement, se produire devant un grand public.
Et pourquoi est-ce qu'il hésite ?
Parce que, ben, vous l'avez vu, quand il était à Vienne, il a fallu qu'il se fasse tirer par les bretelles pour avoir un concert. Il se sent apparemment à l'aise que dans les petits comités où il peut jouer, il peut improviser, il peut de temps en temps faire rire les gens. Il paraît qu'il faisait des imitations de ses confrères musiciens d'une manière extraordinaire en imitant leur style et leurs défauts. Il paraît que les gens étaient tordus de rire quand il se livrait à ces sortes de pastiches. Et puis, il pouvait s'exprimer pleinement lui-même qu'en petit comité, toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, en se sentant aimé. Vous voyez, cette volonté du petit comité qu'il aime, où il sent une ambiance d'affection, alors que dans une grande salle, moins. Alors donc, il va se décider à donner un concert, et ça va se passer le 26 février 1832. Et alors, je vais, pour bien replacer l'ambiance de l'époque, et je vais vous donner le programme de ce concert. Il faut dire qu'à l'époque, il ne pouvait pas y avoir de concert sans chanteuse.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, c'était comme ça. Il y avait toujours des chanteuses. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le programme que quand elles chantent quelque chose, on ne dit même pas ce que c'est. Alors la première partie, quintette composée par Beethoven, opus 29 en ut majeur, exécuté par Baillot, Vidal, etc. Duo chanté par Mesdemoiselles Tomeoni et Isambert. On ne sait pas ce qu'elles chantent. Concerto pour le piano, composé et exécuté par M. Chopin, mi mineur opus 11. Air chanté par Mlle Timeoni, on ne sait toujours pas ce qu'elle chante. Deuxième partie, grande polonaise précédée d'une introduction et d'une marche, composée pour six pianos par M. Kalkbrenner, exécuté par M. Kalkbrenner, d'autres, et puis Chopin qui est parmi les six pianos. Vous voyez, cette volonté de faire un petit peu du spectaculaire et des sortes de pot-pourri. Dans les concerts, il y avait vraiment de tout. Un concerto joué complètement, c'était vraisemblable. On jouait un mouvement de concerto, puis il y avait une dame qui chantait. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, ça se termine par air chanté par Mademoiselle Isambert, toujours la même. Solo de hautbois de M. Prod, qui était une célébrité de l'époque. Et ça se terminait par les grandes variations brillantes sur un thème de Mozart, composées et exécutées par M. Chopin. Ces variations qu'on a entendues lors de la première émission et qui étaient vraiment un de ces...
Toujours les mêmes variations, oui.
C'était toujours un de ces morceaux de gloire, qui était une œuvre pour orchestre. Il ne faut pas oublier que Chopin, malgré la légende qu'on entretient de lui, a composé d'une part pour orchestre, d'autre part pour la musique de chambre, ça on en reparlera. Et aussi, il a fait des mélodies qui sont absolument admirables.
Donc, il joue très souvent ce concerto dont vous me parliez. Nous allons d'ailleurs l'écouter tout de suite.
Ah ben ça, c'est tant mieux.
Il s'agit du troisième mouvement du concerto opus 11 numéro 1 en mi mineur. On l'écoute tout de suite.
Thank you.
Bien, alors je vous parlais du fait que Chopin jouait avec un orchestre, mais quand il était en petit comité, il était rare qu'il joue avec un orchestre, et il jouait toutes ses polonaises, ses mazurkas, ses petites œuvres qu'on connaît, qui sont absolument charmantes, quand je dis petites, petites par la durée, bien sûr. Et je vous propose d'en écouter une.
Oui, il s'agit de la mazurka opus 17, numéro 1, en si mineur, on l'écoute.
Quand même, il est assez connu. Pour le 25 février 1838, il joue aux Tuileries devant toute la famille royale. Et il a de très nombreux élèves parmi les aristocrates polonais et parmi les filles de grande famille. En particulier, il y a une des filles du baron de Rothschild qu'il aura comme élève. Et puis la célèbre comtesse Potocka, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure.
Dites-moi, par rapport à ses succès, est-ce qu'il a oublié pour autant sa famille et la Pologne ? Comment est-ce que Chopin vit tout ça ? Parce qu'il est loin, de la Pologne, loin de sa famille, loin de tout. Est-ce que le succès lui monte à la tête ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah écoutez, je vous ai dit la dernière fois qu'il avait été élevé dans une famille très unie et jusqu'à la fin, sa famille restera le pôle affectif de toute sa vie. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il a une fidélité à sa famille. Un tel point qu'il apprend en août 1835 que ses parents se rendent à Karlsbad, qui est aujourd'hui Karlovy Vary en Tchéquie, et il fait ni une ni deux, il y a quand même près de 800 km pour y aller, et il part simplement parce qu'il sait que ses parents sont là-bas. Il part le 4 août et il y arrive le 15. Vous voyez que ce n'est pas un petit voyage, hein. Et voici comment il raconte la visite à ses parents à ses sœurs dans une lettre datée du 16 août 1835. « Mes chers enfants, dit-il à ses sœurs, voici la première lettre que vous recevez de la main de papa et de la mienne. Notre joie est indescriptible. Nous nous embrassons et nous nous embrassons. Que pourrait-on faire de mieux ? Quel dommage que nous ne soyons pas tous ensemble. Le petit, c'était un neveu. Le petit est adorable. Comme Dieu est bon pour nous, j'écris sans ordre. Mieux vaut ne penser à rien aujourd'hui et jouir du bonheur qui nous est donné de vivre. Ce que le présent m'apporte aujourd'hui est unique. Nos parents n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Ils ont très peu vieilli. Nous nous promenons en donnant le bras à Madame Petite-Mère. Nous parlons de vous. Nous imitons les petits-neveux en colère. Nous nous racontons combien de fois nous avons pensé les uns aux autres. Nous buvons, nous mangeons ensemble, nous nous cajolons, nous nous grondons. Je suis au comble de mon bonheur. Ce sont les mêmes habitudes, les mêmes goûts au milieu desquels j'ai grandi. C'est la même main que depuis si longtemps je n'avais plus baisée. Allons, mes enfants, je vous embrasse et je vous demande pardon de ne pouvoir ni rassembler mes idées, ni parler d'autre chose que du bonheur que nous éprouvons en ce moment. Je n'en avais jamais eu que l'espoir et le voilà réalisé, ce bonheur... Dans ma joie, je vous étouffe avec mes beaux-frères, comme les êtres les plus chers que j'ai en ce monde.
Alors, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas vu ses parents ?
Ça faisait pas très très longtemps, puisque ça s'est écrit en 1835 et qu'il les avait quittés en 1830. Donc, c'est 5 ans après. On a l'impression qu'il a passé des années et des années.
Mais après cette lecture, on a l'impression qu'il avait peur que ses parents aient vieilli.
Oui, absolument. Mais oui, c'est très curieux. Et cette angoisse permanente vis-à-vis de ses parents, d'ailleurs, ça va être de plus en plus fort chez lui. Finalement, vous verrez par la suite, en particulier dans ses relations avec George Sand, qu'il écrit à ses parents et à sa famille tout ce qu'il éprouve de plus en plus. Ça devient de plus... Son écriture à sa famille devient, comme on le disait tout à l'heure, de plus en plus une sorte de journal intime. Alors, ce qui concerne la Pologne, j'ai trouvé une autre lettre écrite par lui alors qu'il fait un voyage avec le célèbre pianiste Hiller. Il écrit cette lettre à la mère de Hiller. Il est sur le Rhin et c'est la seule lettre qu'on connaisse de lui qui soit écrite en allemand. Je n'aurai pas la prétention de vous la lire en allemand, mais je vais vous la lire en français. Et vous allez voir, c'est très joli. « Madame, je ressemble aujourd'hui à la fumée de notre bateau. Je me dissous dans l'air et je sens qu'une partie de mon être se promène en ce moment dans ma patrie, auprès des miens, tandis que l'autre est à Paris. Elle se présente respectueusement chez vous, vous trouve dans votre petit salon et vous présente ses compliments. » Il a un talent pour l'écriture que moi, avant d'avoir relu ses lettres, je n'avais pas bien saisi, mais que je trouvais extraordinaire. D'une petite touche de quelques mots, il arrive à camper une situation, un sentiment, à montrer ce qu'il éprouve d'une manière tout à fait extraordinaire.
Comme tout musicien de manière générale qui arrive à toucher à tout au niveau artistique et dont l'écriture qui en fait
partie. Si vous prenez notre ami Bach, par exemple, ce n'était pas un écrivain extraordinaire. Hein. D'abord, il n'a jamais écrit sur lui-même. Il faisait que des notes d'appréciation sur ses élèves et autre chose. Je crois qu'on ne peut pas dire de tous les musiciens qu'ils ont vraiment cherché à exprimer leurs sentiments par d'autres moyens. Je crois que c'est assez spécial.
C'est peut-être la période romantique qui joue aussi beaucoup sur...
Peut-être. Oui, c'est vrai que des gens comme Mendelssohn écrivaient beaucoup. Même si on remonte à Mozart, il a écrit toute une palanquée de lettres. Mais pas avec cette sorte d'esprit. Il a vraiment un style littéraire. Je ne sais pas si c'est ce que vous éprouvez vous-même, mais on le sent, un style littéraire, une manière de s'exprimer qui vient en plus de la musique. Et qui, je ne dirais pas que ça complète, mais qui est là, qui est bien présent tout au cours de sa vie. Et alors, autre rappel de son amour pour la Pologne, c'est qu'il faut quand même dire que la Pologne est une source d'inspiration qu'on trouve, ne serait-ce que dans les noms qu'il donne à pas mal de ses œuvres, des polonaises, des mazurkas, et puis ses mélodies qui sont tout à fait touchantes. Avant d'entendre une mélodie, je voudrais peut-être que vous nous proposiez d'entendre une polonaise, justement.
Donc nous allons tout de suite écouter cette fameuse polonaise qui est l'opus 71 numéro 1 en ré mineur.
Oui, alors je vous rappelle quand même la phrase que je vous ai déjà lue pour clore un petit peu cette affaire avec la Pologne, de ses relations avec la Pologne. Tu sais combien j'ai toujours cherché à exprimer le sentiment de notre musique nationale et comment j'y suis en partie arrivé. Son amour pour la Pologne, d'ailleurs, se manifeste dans ses mélodies, écrites sur des poèmes de ses amis polonais, et dont vous allez entendre un exemple qui est assez saisissant. Je suis sûr que si on vous avait demandé de qui est la mélodie que vous allez entendre, vous n'auriez jamais pu répondre que c'était du Chopin. Je vais rapidement vous en donner les paroles, parce que sans ça, on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe. Ça, c'est une petite manie que j'ai, en particulier avec les cantates de Bach. J'ai toujours trouvé aussi que si on ne comprenait pas ce qu'il y avait dans les récitatifs, c'était à la limite de l'hypocrisie. Donc voilà les paroles de cette mélodie qui s'appelle « Le fiancé ». « Le vent murmure dans les roseaux. Trop tard, mon cheval. Trop tard, tu caracoles dans les prairies, mon noir garçon. Ne vois-tu pas sur la forêt cette volée de corbeaux ?» Etc, etc.
Alors nous allons tout de suite écouter cette fameuse mélodie, opus 74, numéro 15, qui s'intitule donc « Le fiancé ». À travers une telle œuvre, on sent combien Chopin est profondément ancré dans sa Pologne natale. Nous verrons dans la prochaine émission qu'il participait aussi au monde culturel de son époque et qu'il voyageait beaucoup. Nous parlerons également de ses amours et de ses premières rencontres avec George Sand. Si une œuvre vous a plu et que vous n'avez pas eu le temps de noter sa référence, n'hésitez pas à nous écrire à communication@canalacademy.com ou bien la retrouver en bas du texte joint à l'émission. Je vous rappelle que cette émission est téléchargeable gratuitement sur le site de Canal Academy. Merci pour votre écoute et rendez-vous donc pour notre prochaine émission sur Frédéric Chopin. Merci Monsieur Grévois.
Mais je vous en prie.